Juste avant d'aller plus loin, d'accueillir notre prochain invité, je vous invite à vous inscrire au 985FM. Dans la section concours, vous pourriez gagner une paire de billets pour le Supercross de Montréal ce samedi 14 septembre, 18h30. On en parlait hier avec Jean-Sébastien Roy, tout un show qu'on vous réserve en fin de semaine au Stade olympique. Je félicite Serge Hamel de Varennes qui gagne sa paire de billets. Et c'est un grand plaisir d'accueillir pour la chronique Sport Business, celui que vous pouvez suivre sur YouTube, iCloud. Tu sais, j'en oublie toujours un morceau, Ray, sa chronique Focus. Et bientôt, sa plateforme numérique, Ray Lalonde, sur Twitter également, à commercial, Real Ray Lalonde. Tu vas me donner, tu m'en dois, tu me dois une bière.
Ouais, je pense c'est pas mal de bière, ça, Mario. Ouais, avec plaisir.
Comment ça va, mon Ray?
Ça va très
c'est
bien,
c'est la chronique merci. Sport Business. Bienvenue, mon cher. Ray, plusieurs sujets encore ce soir. Bianca Andreescu et son potentiel commercial, on l'a vécu un peu, mais on l'a vécu comme observateur de voir comment les commanditaires se sont intéressés à Eugénie. Quand Eugénie a percé a atteint le sommet du tennis, on a vu les commanditaires se présenter. Comment ça se manifeste pour Bianca en ce moment? En avait-elle aussi beaucoup avant de gagner l'US Open ou c'était quand même assez vierge comme territoire? Là?
Moi, j'aime ça comparer un peu la performance de Bianca avec celle de Brooke Henderson au golf.
Ah, c'est bon, oui.
C'est parce que ça permet aussi de comparer le tennis et le golf.
Très intéressant.
Tennis étant un sport très intense, face à face, homme ou femme, c'est le combat ultime. Tandis que le golf... t'es un peu au combat contre le terrain et le groupe.
Contre toi-même.
Ouais, ouais, exact. Pour performer et essayer d'avoir le meilleur résultat. Brooke Henderson a gagné un tournoi majeur à l'âge de 18 ans en 2016. Et on a peu parlé de ça. Et pourtant, il y a 4 tournois majeurs dans le golf féminin aussi. Et elle a déjà 9 victoires à son actif. C'est la plus grande golfeuse de l'histoire du Canada, homme ou femme.
Pour elle conclure que le tennis a un plus gros rayonnement que le golf féminin, le tennis féminin versus golf
exactement.
Féminin.
Ouais. Exactement. Et le US Open au tennis, c'est un spectacle.
C'est gros. C'est gros.
C'est vraiment gros en termes de...
Et c'est mixte. Tu sais, c'est un événement où il y a des hommes et des femmes. Contrairement à une classique de golf où tu as une classique, c'est pas mixte, là, je veux dire.
Absolument.
Le tournoi se joue pas en même fin de semaine.
Les femmes bénéficient de la présence de Nadal, Federer et Djokovic dans un tournoi, bien entendu.
Oui.
J'enlève rien à la performance. Ce que je veux dire par là,
non,
c'est
non.
que Brooke Henderson, elle a des commanditaires de grand renom. CP, Rolex, Mastercard. Tu sais, elle est vraiment parmi les plus populaires joueuses de golf au monde. Donc, je regarde Bianca Andreescu qui gagne le US Open et on est en droit, surtout qu'elle a une personnalité flamboyante, elle est articulée et capable de s'exprimer avec confiance.
Ah non.
Donc, ce sont des atouts très importants.
C'est une solide.
Comme porte-drapeau pour une entreprise, Mario.
Oui.
Donc, je suis obligé de dire que elle a déjà quelques commanditaires. Copper Branch, par exemple. Nike, tu sais, mais ça va augmenter. Et surtout, la victoire dans un tournoi majeur lui donne énormément de crédibilité. Eugénie avait atteint des demi-finales deux fois, puis une finale une fois, mais elle n'avait pas gagné.
Crédibilité et un tantinet d'autonomie financière aussi, parce que le chèque de 3,8 qu'elle a ramassé en fin de semaine, là, 5 millions canadiens, Eugénie ne l'a jamais recueilli,
non.
Ce chèque-là.
Non.
Là. Fait que veux pas, ça te permet peut-être de dire où on va prendre 2 minutes pour regarder tout ça.
Et voilà, puis c'est là-dessus que je veux t'emmener, c'est que c'est important pour elle de faire des bons choix, d'être sélective, d'être prudente. Ça va être son équipe. Bon, elle peut augmenter le rayonnement de son équipe, c'est-à-dire avoir plus de gens. Quand tu regardes un peu la loge de Nadal ce week-end, la famille, 2 entraîneurs, Carlos Moya et Francis Roig, pas 1, mais 2, un thérapeute, un même médecin, son psychologue, ils sont tous là. Ça, c'est une grosse équipe. Mais avec une académie en Espagne en plus derrière ça. Alors, graduellement, Bianca va être capable de pouvoir investir pour de l'encadrement, pour des professionnels autour d'elle. C'est sûr qu'elle a le soutien de Tennis Canada et de Sylvain Bruno.
Là, ça ne coûte pas trop cher et soutenu. All the way, mais maintenant, elle va peut-être vouloir voler ses propres ailes. J'ai abordé le sujet avec plusieurs intervenants cette semaine.
Et là, les aptitudes. Elle possède les aptitudes pour pouvoir y arriver. Et là, maintenant, les moyens financiers.
Ouais.
Et en plus, ça va augmenter. Il faut certainement qu'elle soit consciente que ça peut rapidement dérailler. C'est pas certain qu'elle en gagne un autre.
Fait que tu fais quoi? Tu saignes-tu au plus vite?
Tu y vas avec des choses sûres et long terme et stables au départ.
Il n'y a pas de clause de retrait pour les compagnies parce qu'on a l'impression qu'il y en a qui sont disparus du paysage avec ceux qui gagnent moins.
Oui, il y en a toujours avec ceux qui gagnent moins, mais ça expire. Mais les clauses qui peuvent disparaître, c'est causé par du comportement qui pourrait occasionner une cessation là, d'un contrat.
Fait que là, les gros commanditaires en ce moment, les chaussures, je pense qu'il y a une compétition, Adidas.
Moi, je pense que Nike lui fournit déjà ces éléments-là. Donc, je pense que Nike va tout de suite re-signer. Et rapidement. Mais elle aurait avantage à peut-être s'aligner avec quelqu'un dans le dossier d'automobile ou quelqu'un dans l'industrie, par exemple, de l'alimentation ou quelqu'un comme partenaire institution financière. Ça, ce sont des stables. Ce sont des entreprises qui ont l'habitude de soutenir à long terme et d'obtenir la visibilité et que ce sont des entreprises qui amplifient la perpétuité, la pérennité. La constance. Et ça, Bianca, je pense qu'elle a besoin de ça. Et graduellement, par la suite, elle pourra prendre des risques. Et peut-être s'aligner peut-être avec une boisson énergique, avec peut-être
elle va aller chercher combien par année?
Ben moi, je pense que dans le court terme, ça, c'est mon observation personnelle, j'ai pas l'information de son groupe ou de son clan, mais je pense que dans le 12 prochains mois, là, elle peut facilement aller chercher entre 5 et 10 millions de dollars de revenus commandites stables pour des ententes de quelques années.
Et j'ai l'impression que c'est conservateur parce que moi, je pense qu'elle est en position avec tout le potentiel d'avenir qu'elle a. Je sais pas si les commanditaires vont entendre ça. Elle va aller chercher une méchante galette. Ouais. Je pense qu'elle est en mesure de se négocier du 5 ou du 10 ans à 10 millions par année facile juste avec un fabricant de chaussures.
Peut-être pas.
Hey, l'as-tu vu pareil? Es-tu cool? Pas à peu près. Regarde encore aujourd'hui. T'es en pleine conférence de presse. Là, elle reçoit le texte de Drake. Là, elle parle de sa voix.
Mais c'est ça.
Tout cool avec elle, tu sais, on dirait que
c'est facile.
Cool.
C'est facile, elle est fluide, elle réagit bien, et en plus, Mario, elle rejoint la jeune génération. Donc ça, c'est ça que les annonceurs et les partenaires veulent.
Et les cheveux gris aussi.
Exactement. Fait qu'elle, là, elle connecte avec les jeunes qui la trouvent cool.
Ben, mais hein.
Donc, médias sociaux, puis tout l'univers technologique puis numérique, c'est une ambassadrice d'excellence. Donc, les entreprises qui veulent s'associer à elle, parce qu'ils voient qu'elle symbolise les mêmes valeurs, mais aussi qu'elle va transporter ces jeunes-là vers leurs produits.
Sa valeur va grandir, va croître. Ouais. Fait que l'investissement va prendre de la valeur.
Mais elle doit performer. Elle doit ne pas être distraite, Mario. Et elle doit surtout continuer à livrer des résultats.
Et c'est le discours qu'on a entendu autour d'elle et de sa part. Mais juste là, je vais pas te prendre, là, au dépourvu. Mais de mémoire, là, tu te souviens-tu des ententes commerciales importantes? Ça va jouer dans les combien par année que ce que Serena pouvait toucher? C'est des gros contrats. Quand t'es la reine de ton sport, là.
Serena Williams, au fil de 20 ans, au US Open, sa première apparition en 1999, puis sa toute récente, et 23 titres du Grand Chelem plus tard, meilleure joueuse de l'histoire.
Elle vaut 175 millions, je pense.
Ouais, mais annuellement, Serena pouvait faire dans les hauts niveaux commandites et commerciales dans l'environ de 25 à 50 millions de dollars. C'est sûr que ça s'accumule au fil du temps. Elle a des
impositions
et tout ça. Mais Serena Williams, c'était peut-être la déesse de toutes ces ententes médiatiques-là et commerciales parce que comme athlète féminine sur la planète,
elle était unique.
Elle était sur une plateforme seule. Ouais.
Oh non, Serena, c'est Serena. Je veux dire, elle n'a pas besoin de l'appeler par son prénom. Et ça va arriver avec Bianca aussi, je pense.
Elle a le nom pour le faire. Oui. Puis si Bianca accumule quelques autres titres... Tu sais, je vais donner l'exemple de Naomi Osaka, qui a gagné le US Open l'an dernier.
Oui.
Son premier titre majeur, qui a suivi avec l'Open d'Australie quelques mois plus tard.
Bonne comparaison.
Pas longtemps après, entente à haut niveau avec Nike et avec les commanditaires, et elle est devenue un visage du tennis féminin dans le monde. Ça a pris que deux seules victoires dans des grands chelems, et les jeunes, il y a beaucoup de potentiel et beaucoup d'aspiration pour elle encore, même si elle a eu une saison plus difficile. Mais Mario, c'est toujours basé sur les résultats.
Un peu plus en rafale, parce que dans le fond, on avait le goût de parler de Bianca un peu plus longtemps. Bon, là, on entend parler de l'Association des joueurs qui a jusqu'à samedi là pour dire à la Ligue nationale, on veut rouvrir la convention collective. D'après toi, vont-ils vouloir la rouvrir ou ils vont endurer, s'ils doivent l'endurer jusqu'à la fin?
Ouais, la question, c'est que la Ligue a déjà annoncé ses couleurs, puis eux veulent poursuivre. Mais les joueurs se sont rencontrés à Chicago. Il y avait une cinquantaine de joueurs, c'est quand même beaucoup, avec Donald Fear. Et moi, je pense qu'ils vont poursuivre les discussions, les pourparlers, de façon à arriver à compléter le terme actuel. C'est cordial comme relation cette fois-ci. C'est un peu mieux que dans le passé. Les joueurs savent que la Ligue nationale de hockey va bien par les temps qui courent, mais ils ont encore quelques plaintes, quelques observations qui les irritent.
Dont la retenue sur leur salaire.
Ouais, la participation aux Jeux olympiques, la mondialisation, les efforts de la Ligue nationale de peut-être pas tout à fait être engagé vers une nouvelle clientèle mondiale. La retenue sur les salaires que tu soulignes, Mario, ça s'appelle en anglais « escrow ». Puis ce que c'est finalement, c'est une somme qui est retenue à chaque chèque de paye des joueurs, de façon à ce qu'on puisse la remettre simplement à la fin de la saison, lorsque la comptabilité finale de la Ligue nationale de hockey est complétée, afin de s'assurer qu'on a 50% des revenus hockey remis aux joueurs et 50% remis aux propriétaires. Mais dans le 50% remis aux joueurs, il faut aussi savoir que c'est par la suite du 50% qu'on déduit les bénéfices. L'assurance santé, régime de retraite et ainsi de suite, qui est déduit de la somme des joueurs, puis il en reste encore moins après. Et ensuite, on prend l'argent qui reste, on l'envoie aux 31 équipes. Et les 31 équipes doivent se payer un plancher ou un plafond salarial et acheter des joueurs.
Et en tout cas, ça va sortir en fin de semaine, samedi, mais tu nous l'as bien expliqué. Des petites nouvelles qui peuvent toucher le hockey, par moi, de deux amphithéâtres sportifs aux États-Unis, San Francisco, Long Island.
Ouais, ben Long Island, c'est le domicile nouveau des Islanders qui va être prêt dans à peu près un an et demi. Et je le souligne parce que ça va coûter 955 millions pour l'amphithéâtre et 1,3 milliard pour le projet à Belmont Park, juste à côté de la piste de course célèbre. Les Islanders vont retourner là-bas. Et les Islanders, les Mets et Oakview Group est propriétaire de cet amphithéâtre. Puis pourquoi je le souligne? Parce que Oakview Group, c'est eux qui étaient responsables de l'arrivée de l'équipe de Seattle dans la Ligue nationale comme 32e équipe, qui va commencer dans une année. Alors, mais l'autre stade, c'est le Chase Center, domicile nouveau à San Francisco des Warriors de la NBA. 1,4 milliard US pour un amphithéâtre qui va accueillir que des concerts et l'équipe de basketball renommée des Warriors. Il vient d'ouvrir. Alors, on a fait le coupage du ruban. On a des concerts tout l'été. Les Warriors commencent leur saison dans à peu près un mois. Et ça va se dérouler. Ils ont quitté Oakland pour se retrouver à San Francisco.
Les Sharks n'iront pas jouer là?
Non. Parce que là, on est vraiment en conflit en termes de territoire. Les Sharks ont un bon territoire à San Jose. C'est pas trop loin, mais il y a des gens là-bas qui adorent les Sharks. Et San Francisco...
Loin que t'as pas de ta clientèle non, trop exactement. Trop. Est-ce qu'on a le temps? Je ne pense pas. Non, la musique qui vient de partir. Houston, tu sais que le propriétaire des Rockets, lui aimerait ça avoir un club de la Ligue nationale en 10 secondes.
Ouais, mais lui, il a son aréna, le Toyota Center. Il a de l'argent. Il a acheté les Rockets pour 2,2 milliards. Puis là, il veut un club de la Ligue nationale de hockey. Fait que ça demeure une ville aspirante à une franchise de la Ligue nationale.
Merci beaucoup, Ray. Puis j'avais oublié Instagram où on peut te suivre également. Merci, mon cher. Et dans un instant, André Labelle qui a enseigné le tennis à Bianca Andreescu au cœur de son adolescence. C'est pas mal intéressant. Revenez-nous tout de suite.